Transition énergétique, comment changer d'échelle? Avec Patchy Vergara, Anne Bringo, Thierry Salomon et Mathieu Orphelin.
Bonjour à tous, nous allons commencer. Donc tout d'abord, bienvenue à cette conférence Transition énergétique, comment changer d'échelle. Donc je me présente, je suis Patchy Vergara, président d'INR et directeur général d'Energia. Et donc je serai en charge d'animer cette table ronde. À mes côtés, Anne Bringo, qui se charge de la coordination des ONG sur la transition énergétique chez Réseau Action Climat et Leclerc, le réseau pour la transition énergétique. Thierry Salomon, qui est ingénieur énergéticien et vice-président de Megawatt. Et enfin, Mathieu Orphelin, qui est ancien directeur de la recherche et de la prospective au sein de l'ADEME et actuellement député du Maine-et-Loire. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter donc deux initiatives ici sur le Pays Basque. C'était un peu notre manière de changer d'échelle et d'être acteur de la transition énergétique. Donc en 2013, un petit groupe de mon été 3, on s'est réunis et on a voulu réfléchir sur qu'est-ce qu'on pouvait faire à notre niveau pour impulser au Pays Basque la transition énergétique, sachant qu'il y avait déjà Vici qui menait plein d'actions, mais nous, ce qu'on voulait, c'est créer plutôt une structure qui pourrait, donc, à l'époque on ne savait pas, mais en tout cas qui pourrait donc impulser la transition énergétique. Et donc, en regardant un peu ce qui se faisait un peu partout en Europe, on voyait émerger ce qu'on appelait des sociétés citoyennes de production d'énergie et on va dire après pratiquement 5-6 mois de travail, on s'est dit ben finalement donc, on va créer nous-mêmes, ici sur le territoire, une société de production d'énergie citoyenne. Donc cette société elle s'appelle INR, elle est basée en Anglette, elle a les bureaux à Saint-Jean-le-Vieux, elle compte un salarié et aujourd'hui c'est 450 actionnaires qui ont investi l'équivalent de 300 000 euros dans le capital d'INR. Et ces 300 000 euros, on les a utilisés pour donc financer des projets photovoltaïques en partenariat avec plusieurs communes du Pays Basque. Et donc on a actuellement 15 centrales raccordées au réseau et on a de plus en plus de projets à mener sur le territoire. Notamment, donc, on mène des études autour de la méthanisation et également la réflexion de la réhabilitation dans cette zone d'enfouissement. Comme ces zones-là ne sont pas constructibles, il y a toute une réflexion autour de ça. Après INR, parce que là, donc, comme j'expliquais, on faisait de la production d'énergie, on avait beaucoup de nos actionnaires qui nous demandaient « Mais est-ce qu'on peut vous acheter l'énergie que vous produisez ?» Et en fait, on ne pouvait pas, parce qu'on était obligé de vendre cette énergie à un fournisseur. Donc jusqu'à présent, on va dire que la totalité, ou pratiquement la totalité de notre production est vendue à EDF, parce que EDF était on va dire la seule structure qui avait ce qu'on appelle l'obligation d'achat, donc des tarifs préférentiels d'achat d'énergie. Depuis, Enercoop a obtenu cet agrément pour pouvoir donc, proposer ça. Donc sur nos 15 centrales, il y en a 14 qui sont actuellement avec EDF et une qui est avec Enercoop, et on réfléchit actuellement à passer d'autres sur Enercoop. Et par contre, ce que nous on s'est dit, c'est que comme on avait beaucoup de demandes et quand même un réseau assez large, on a entamé la réflexion de pourquoi pas créer nous-mêmes notre propre fournisseur d'énergie. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer donc Energia. Je vais passer maintenant donc, la parole aux autres intervenants. Donc d'abord à Madame Bringo. Donc Anne, comment vous voyez le changement d'échelle?
Bonjour à tous, donc Anne Bringo du réseau Action Climat et du CLER, réseau pour la transition énergétique. Alors la question qui est posée ici, c'est est-ce qu'on peut sortir du nucléaire et des fossiles rapidement? Et c'est vrai que c'est une question qui est souvent mise en débat. On oppose souvent la sortie du nucléaire et la sortie des fossiles. Or, on peut sortir évidemment des deux. Je laisserai Thierry Salomon, vice-président de Megawatt, présenter un petit peu la manière dont Megawatt présente cette possibilité, mais y compris au sein du gouvernement, au sein du ministère de la transition écologique et solidaire. un scénario est en cours de construction, qui sera le scénario officiel de ministère. Et ce scénario, il a comme consigne l'arrivée à la neutralité carbone en 2050. Neutralité carbone, ça veut dire qu'on ne va pas émettre plus de gaz à effet de serre en 2050 que ce qu'on peut absorber par les puits de carbone, les forêts, les sols, etc. C'est un objectif qui est ambitieux. Et du coup, on est obligé, dans ce scénario, finalement, de sortir des fossiles assez rapidement, ce qui finalement n'est pas le plus difficile, parce que sur les gaz à effet de serre, ce qui est le plus difficile à réduire, c'est plutôt les émissions de l'agriculture, le méthane de l'élevage, par exemple, ou les engrais azotés, plus que les énergies fossiles. Donc on sait trouver des solutions pour sortir des énergies fossiles, que ce soit pour la mobilité, le chauffage ou autre. Et ce que ce scénario dit aussi, c'est en 2050, on a deux fois les gisements disponibles en France pour faire du solaire, de l'éolien, etc. On a deux fois suffisamment de gisements pour être à 100% énergie renouvelable en 2050. Donc, y compris le ministère dit, on peut faire les deux. Voilà. Donc maintenant, la question, c'est pourquoi, alors qu'on sait qu'on peut le faire, alors qu'on a les solutions techniques pour le faire, pourquoi est-ce que ça bloque? C'est là où on voit qu'il y a beaucoup de freins et nous, on a voulu montrer, on a créé un observatoire climat-énergie que vous pouvez trouver sur un site qui s'appelle observatoire-climat-énergie.fr qui montre que si en France, on s'est fixé des beaux objectifs, si on regarde où en est la France par rapport à ces objectifs, eh bien, on est complètement dans les choux. Aussi bien sur les émissions de gaz à effet de serre que sur le développement des renouvelables. On est l'un des trois plus mauvais pays en Europe par rapport aux objectifs 2020 sur les énergies renouvelables. On a deux objectifs de baisse de la consommation d'énergie. La consommation d'énergie a augmenté l'année dernière, y compris sur les énergies fossiles. Donc on voit que finalement, on sait qu'on peut faire, on a de beaux objectifs, mais il ne se passe rien. Donc il ne se passe rien, pourquoi? Parce qu'on a effectivement des acteurs qui sont dans un système actuellement dominant et qui font tout leur possible pour qu'on ne change pas ce système dominant avec une production d'électricité, par exemple, très centralisée. Et finalement, ce système, il rassemble tous les acteurs qui ont été, qui ont un intérêt en fait à ce système. Les réseaux ont été conçus également pour ce système. Pour la mobilité, tout a été fait pour le transport routier. Finalement, tout cela arrange tout un système avec différents acteurs qui ont un intérêt économique à rester dans ce système et donc à ne pas changer. Et on voit du coup qu'en plus, ça se mord la queue, puisque sur la partie électricité, finalement, qu'est-ce qui est en train de se passer? La France avait des objectifs de baisse de la part du nucléaire et puis de développement des renouvelables et de baisse de la consommation d'énergie. Et finalement, comme on n'a pas fait les efforts qu'il fallait pour développer les renouvelables et baisser la consommation d'énergie, on dit, bah, vous voyez bien, on ne peut pas fermer les centrales nucléaires puisqu'on n'arrive pas sur la consommation d'énergie. Donc le gouvernement va proposer de décaler l'objectif nucléaire probablement en 2035. Et puis, comme il décale, il dit, ah bah du coup, c'est pas la peine de développer trop les renouvelables et les économies d'énergie, vous voyez bien, puisqu'on va prolonger les réacteurs nucléaires. Et finalement, on rentre dans un cercle vicieux où on trouve toujours toutes les raisons pour ne pas changer. Donc, comment on sort de ce cercle vicieux? Il y a un chercheur belge qui s'appelle Philippe Barret, qui a travaillé sur justement les systèmes sociotechniques et comment, quand un système, alors lui il a travaillé plutôt sur les questions agricoles, mais ça revient au même, comment dans un système où tous les acteurs ont un intérêt finalement commun à rester dans ce système, comment on change vers un nouveau système pour la transition énergétique, et bien c'est développer les économies d'énergie, rénover le logement, sur la mobilité, se libérer complètement des énergies fossiles, développer d'autres modes de transport, développer le vélo, réduire aussi la mobilité. Sur la production d'électricité, c'est aller évidemment vers le 100% énergie renouvelable. Et donc pour lui, en fait, il y a un moment, ce système dominant, et puis il y a des niches. Il y a des acteurs qui arrivent. Donc, on a envoyé un exemple ici qui est en train de se mettre en place au Pays Basque. Et puis, voilà, il y a des petites niches qui paraissent au départ très petites. Voilà, il y a quelques personnes très militantes qui créent des choses un peu entre elles, planétiles. Comment faire pour que ces niches, finalement, deviennent également la norme? Et pour nous, il y a vraiment trois axes de travail pour généraliser ces niches, légitimer ces alternatives, et donc c'est vraiment important qu'elles soient portées, qu'elles soient connues, et que du point de vue du public, on réalise que c'est vraiment quelque chose de viable. C'est une vraie solution, c'est pas un truc de d'hurluberlu qui ont trouvé une idée bizarroïde. Non, c'est quelque chose qui marche. On produit de l'électricité, on la vend à des gens qui ont envie d'en acheter. Chacun peut devenir aussi investisseur dans la production d'énergie renouvelable. Deuxième axe, la pression sur le régime dominant. C'est important, en parallèle de la promotion de ces niches, de mettre la pression sur les acteurs dominants. On sait très bien que EDF n'est pas le champion du changement, alors même que c'est un risque économique majeur pour l'entreprise de ne pas changer, parce que l'entreprise est face à un mur d'investissement considérable pour prolonger les réacteurs nucléaires, voire en construire de nouveaux, avec tous les risques qui sont induits. On sait très bien qu'on a la question des déchets nucléaires qui n'est pas du tout réglée, et pourtant l'entreprise s'endette. Donc c'est important aussi de continuer à mettre en avant le fait que cette entreprise va vraiment dans le cul-de-sac. Et c'est le cas également, évidemment, pour les entreprises d'énergie fossile. Clairement, il y a également des entreprises comme Total qui font plus de greenwashing que de réelle volonté pour aller vers la transition énergétique. Donc c'est important que ces acteurs-là, qui pour l'instant sont les acteurs qui ont accès aux décideurs, pour la plupart, ressentent également une pression sur leur modèle. Et puis le troisième axe qu'il propose, c'est d'aider la convergence et la mise en réseau. Il faut vraiment aussi que finalement toutes ces initiatives de niche qui existent, qui sont sur l'énergie en partie, mais pas que sur l'énergie, on le voit avec la NEF, qui travaille par exemple beaucoup avec l'ENARCOP, avec les AMAP, avec voilà, Biocop, toutes ces initiatives, il faut montrer qu'effectivement elles font système, un nouveau système, et que c'est ça qui va permettre d'aller vers un avenir différent sur la transition énergétique. Donc voilà, les trois axes qui étaient proposés par Philippe Barré, que je trouve intéressant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On a vu ici au Pays Basque qu'on peut investir dans des projets d'énergie renouvelable. On peut changer de fournisseur. Si on n'est pas au Pays Basque avec Energia, on peut changer pour un autre fournisseur que l'Enercop. On peut investir dans des projets d'énergie renouvelable. C'est vraiment très important, puisque ce n'est pas juste une question financière pour trouver l'argent pour ces projets, mais c'est aussi une question démocratique. C'est-à-dire qu'il faut se réapproprier les choix. Où est-ce qu'on va mettre telle et telle énergie renouvelable? Qu'est-ce qui est adapté à mon territoire? Et finalement, on va se réapproprier ces décisions et relocaliser également l'énergie dans son territoire. Ce qui, par ailleurs, a un avantage, les retours, les retombées économiques de ces projets d'énergie renouvelable vont rester dans les territoires. Et donc c'est vraiment important que l'investissement dans ces projets soit fait en grande partie par des acteurs locaux, que ce soit des citoyens ou des collectivités. Par ailleurs, donc ça c'est des choses qu'on peut faire soi, on peut réduire sa consommation d'énergie, ça je pense que vous le connaissez tous et que je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, à un moment donné, il faut s'organiser aussi plus collectivement. Et c'est pour ça que le réseau Action Climat, avec l'Alternativa, propose les campagnes sur les alternatives territoriales, que vous pouvez trouver aussi sur le site du réseau Action Climat, où vous pouvez du coup vous inscrire, où vous habitiez, et vous allez être mis en relation avec des personnes qui habitent autour de chez vous, et ensemble, vous allez choisir sur quel sujet vous avez envie d'agir ensemble vis-à-vis de votre collectivité. Puisque on sait que sur la question du climat, 70% des actions peuvent être faites au niveau local. Donc vous avez la possibilité de vous organiser et de faire que votre collectivité elle-même, par exemple, elle vous met des pistes cyclables, par exemple, elle met des panneaux solaires sur les toits des écoles. Alors, voilà, beaucoup d'autres exemples de choses où elles investissent elles-mêmes dans les projets d'énergie renouvelable. Et puis, vous avez la possibilité aussi d'agir sur les décisions nationales, même si parfois ça peut paraître loin. Il va y avoir, au début de l'année 2019, de manière quasiment incertaine, une nouvelle loi sur l'énergie puisque le gouvernement veut décaler l'objectif de 50% nucléaire et il va être obligé de passer par une loi, sinon la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, pardon, la feuille de route de l'énergie qui va sortir bientôt, serait illégale puisqu'elle est censée répondre aux objectifs de la loi actuelle. Donc cette nouvelle loi sur l'énergie, eh bien là, on compte vraiment sur vous pour vous aller voir votre député. Alors Mathieu, si vous êtes en Maine-et-Loire, Mathieu est a priori quelqu'un d'assez convaincu, mais votre député pour lui dire c'est un sujet qui me préoccupe. Vous êtes mon député, vous représentez les citoyens de la circonscription, moi je veux vous passer ça et ça. Et Mathieu nous dira aussi, et Delphine Bateau hier en table ronde, qui disait ça compte quand un député reçoit plusieurs centaines de mails ou des visites à sa circonscription de personnes qui me disent moi c'est vraiment un sujet qui est important. Donc voilà, il ne faut pas considérer qu'on n'est pas légitime pour aller voir son député, bien au contraire. Donc voilà les différents moyens pour essayer de changer le système.
Merci Anne. Je vais passer maintenant la parole à Thierry Salomon. Donc, comme je vous disais, c'est ingénieur énergéticien, vice-président de Mégawatt.
Merci. Bonjour à tous. Je voudrais articuler ce que sur trois parties. La première, c'est un rappel très rapide du salon de Mégawatt, mais ça sera rapide parce que on a, pour ceux que ça intéresse, de façon plus technique, tout à l'heure en début d'après-midi avec Christian Couturier, qui est président de l'association, de nouveau une intervention sur laquelle vous pourrez nous interroger sur différents points, à la fois énergétiques, climatiques et techniques. Après, pour revenir au débat qu'on a actuellement, c'est comment y arriver et comment y arriver avec un temps, une vitesse suffisamment rapide. Et puis, le troisième point serait plutôt de faire déjà quelques propositions par rapport à ça. Volontairement, moi, je vais me situer plutôt sur une échelle globale, donc une échelle nationale, qui est celle du scénario Mégawatt, qui a été travaillé pour la France métropolitaine, France continentale et Corse, mais qui ne comprend pas donc l'ensemble des autres DOM-TOM notamment. Le travail qu'on a fait, c'est un travail qu'on a mené depuis 2003. On en est maintenant donc à notre quatrième scénario Mégawatt qui a été publié en 2017. Comment on travaille? On est à peu près un groupe d'une vingtaine à travailler avec là-dedans des gens qui sont vraiment des spécialistes à la fois de la consommation de la maîtrise d'énergie, mais aussi des énergies renouvelables et du nucléaire. Et on se réunit et on regarde, si vous voulez, quelles sont les possibilités de réduction de consommation d'énergie et d'énergie renouvelable, tout usage, pas uniquement l'électricité. L'électricité, vous le savez, c'est à peu près 20% de notre problème énergétique, pas beaucoup plus en électricité spécifique. Et donc, on analyse. Un exemple très simple, pour le logement par exemple, eh bien, on va analyser les 20 à 30 postes de consommation d'un logement, l'éclairage, la machine à laver, etc., etc. Et puis on regarde le stock actuel, quelles sont les consommations aujourd'hui et comment on pourrait faire si demain, par exemple, il y avait une modification, un changement d'appareillage ou de comportement qui permettrait de réduire la consommation d'énergie, en tenant compte aussi évidemment de consommation et de substitution d'énergie d'une énergie à une autre. Alors on l'a regardé sur sur ce qu'on appelle le domestique, sur le tertiaire, sur l'agriculture, sur l'industrie et évidemment sur la mobilité, toute la mobilité, à la fois la mobilité des personnes et puis le fret de marchandises. Donc ça fait des ensembles de chiffres assez énormes, mettons plusieurs milliers de points de consommation qu'on analyse et on va agréger tout ça et regarder qu'est-ce qui se passe. Et ce qui est intéressant, c'est de le regarder année par année pour avoir à ce moment-là une trajectoire. Le scénario Mégawatt, ce n'est pas une vision. C'est pas, on va décrire ce qui pourrait se passer en 2050. C'est un chemin. C'est un petit peu comme si on se disait, on doit aller quelque part, on va faire une randonnée, on va aller quelque part, il y a un col avec un beau paysage, Et on va préparer derrière, on n'y va pas comme ça sans biscuits et sans sac à dos, on va regarder combien de temps il faut, est-ce qu'il faut un camp de base, est-ce qu'il faut, quels sont le nombre de personnes, qu'est-ce qu'il faudra en termes de formation, de moyens, etc., etc., sur l'ensemble des énergies, pas uniquement l'électricité, comme j'indiquais tout à l'heure, mais toutes les énergies. Et on regarde où est-ce qu'on arrive. Et si on n'arrive pas sur ce bout de la trajectoire, parce qu'on ne va pas assez vite, par exemple, eh bien, à ce moment-là, on modifie le scénario en disant, ben non, on avait par exemple prévu 400 000 rénovations de logements par an, ben c'est pas ce qu'il faut, il faut 700 000, etc. Ça nous permet à ce moment-là de régler une trajectoire. Et donc, ce mot est très important, de trajectoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un scénario qui permet à ce moment-là une temporalité et en même temps un tempo, si vous voulez, un rythme à fournir. Et ça, c'est très très important parce que du coup, on place après la discussion vraiment au bon endroit. C'est-à-dire pas en se disant « Ah ben c'est formidable, il faut rénover les logements, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, et puis il y a des initiatives à droite, à gauche. » Non, on se place de façon globale en disant « Si on veut arriver à la neutralité carbone dont parlait Anne Bringaud tout à l'heure, et à une sortie du fossile et du fissile, sur une période qui soit compatible avec les problématiques énergétiques et climatiques, eh bien, à ce moment-là, il faut aller à tel rythme. Donc ça nous donne un rythme, ça nous donne un tempo global sur l'ensemble des énergies, en regardant aussi de façon plus précise sur l'électricité comment faire, parce que, vous le savez, l'électricité se stocke pas ou mal, et donc évidemment il faut régler les problèmes de ce qu'on appelle la variabilité des énergies renouvelables photovoltaïques et éoliennes. Et on le fait à ce moment-là sur une modélisation du système énergétique global français avec des simulations heure par heure jusqu'à 2050 pour voir si à un moment donné il y a des problèmes de stockage, d'intermittence, etc., pour pouvoir répondre à cette question-là. Alors, on a publié pas mal de choses là-dessus, hein, donc je vous invite par exemple à regarder ce document qui est sur notre site, j'en ai amené quelques-uns. Il y a des bouquins qui ont été publiés, beaucoup de choses. On vient de publier un document d'à peu près 150 pages avec tous les chiffres qui sont à l'intérieur. Alors c'est pas drôle, hein, mais c'est, au moins ça permet de, si vous avez les insomnies, c'est parfait, c'est comme le bottin, quoi, hein. Mais au moins ça permet de dire on est transparent par rapport à ça et donc on organise la discussion. Où est-ce qu'on arrive ? On arrive pour la France, à une neutralité carbone, c'est-à-dire en 2050, à peu près un petit peu avant, autant d'émissions résiduelles de gaz à effet de serre, et il en reste, ne serait-ce que le méthane ou les oxydes nitreux sur l'agriculture, les ruminants, etc., que de stockage par le sol, sachant que ce scénario est couplé, très exactement couplé avec un autre scénario qui s'appelle AFTER, qui a été développé par Solagro à Toulouse et qui, lui, traite de l'alimentation, de l'agriculture et du territoire. Et donc, on a couplé les deux. Je dis maintenant, ils ne sont plus jumeaux, ils sont siamois. On pourrait faire un seul scénario, en fait, des deux. Ça nous donne, à ce moment-là, une vision crédible, désirable pour la France sur l'énergie, le territoire, l'agriculture, les transports, et on vient maintenant de travailler de façon très complète toute la partie industrielle, c'est-à-dire tout ce qui est matière, fabrication, etc. etc. Ça nous donne à ce moment-là, comme je disais, une trajectoire. Mais après, se pose, pour revenir au débat qu'on a actuellement, des vraies questions qu'il faut aujourd'hui se poser, qui sont des questions de vitesse, des questions de temporalité. Quand je dis 700 000 logements à rénover par an à un niveau de basse consommation, pas à un niveau où je change trois fenêtres, hein, et je mets un peu d'isolation sur le grenier, c'est tout à fait autre chose. Comment on fait ? Sachant qu'on doit en faire 10 000. On n'est pas du tout dans le bon rythme. Donc il y a un changement de rythme qui est à faire. Et là, se pose à ce moment-là une question très forte pour moi, enfin pour nous, à Négawatt, c'est celui de l'acceptabilité et de l'appropriation par l'ensemble des citoyens de la vitesse correspondante, du changement correspondant. Est-ce qu'il faut le faire de manière autoritaire ? Est-ce qu'on va vers une un système très autoritaire sur ces questions-là, c'est comme ça et c'est pas autrement, vous allez rénover votre maison à telle date, etc., etc., je caricature un peu, mais à peine, ou est-ce que derrière, il y a une appropriation citoyenne qui est faite ? C'est une vraie, très forte question. Et plus on attend, plus cette question-là va se poser. Elle se pose aujourd'hui, évidemment, au niveau du nucléaire. Il n'y a pas de réponse, on est dans un flou complet. On va vers des difficultés absolument énormes sur EDF. Tout le monde en est conscient, personne ne fait rien, ou très très peu. Et donc, il y a des décisions qui sont fortes à prendre. Est-ce que ces décisions sont démocratiques ou est-ce qu'elles sont autoritaires ? Pour ne pas être trop long, une des réponses possibles que j'ai développées un petit peu hier pour ceux qui étaient là, serait de se dire, on a vraiment besoin aujourd'hui d'un énorme débat démocratique en France, un peu comme il y a eu ce moment, si vous voulez, sur la réforme de la Constitution, vous vous rappelez, où tout le monde, quel que soit le résultat, c'est pas la question, mais au moins à un moment donné, les Français se sont préoccupés de cette question. Moi, je me rappelle être monté une fois à Paris en TGV, dans le wagon-bar, tout le monde discutait de la réforme constitutionnelle. Il y a eu un vrai moment. Et je pense qu'il faut organiser de nouveau un vrai moment comme celui-là pour aboutir à ce qu'on pourrait appeler une sorte de code de la route énergétique et climatique. Pourquoi un code de la route ? Quand vous regardez ce qui se passe quand vous prenez votre voiture, finalement, vous obéissez à toute une série d'autorisations, d'interdictions, vous arrêtez un feu rouge, etc. Si vous ne le faites pas, il y a des conséquences. Mais au moins, ces interdictions et ces obligations, contrôle technique tous les 2 ans, etc., etc., sont finalement acceptées par tous comme la contrepartie de me dire « je vais... » Pardon ? D'accord. La contrepartie de dire je vais d'un point A à un point B et je suis à peu près sûr de rester vivant. C'est-à-dire, tout le monde va obéir en quelque sorte au même code. Donc on a bien une expression démocratique d'un ensemble de réglementations, d'acceptations, etc., qui limite notre liberté, entre notre liberté individuelle en gardant finalement la responsabilité de pouvoir se déplacer sans faire en sorte que les autres soient gênés ou accidentés. Eh bien, face aux problèmes énergétiques et climatiques gravissimes qu'on a actuellement, je pense qu'il faut maintenant travailler ensemble à un code de la route énergétique et climatique. Ce code de la route, il devrait se dire « on va effectivement vers un objectif de neutralité ». Ça, c'est intangible, c'est même pas dans le code, c'est le point d'arrivée. De la même façon que le code de la route, le point d'arrivée, c'est de dire « je vais de A à B sans être accidenté ». Mais à partir de là, ça nous permet à ce moment-là de définir le bon tempo. Parce que si on ne définit pas le bon tempo, si on en reste à un certain nombre de mesures, un peu soit éco-gestes, soit des choses très, très excellentes, mais trop, qui ne sont pas dans le bon rythme, eh bien on n'y arrivera pas, on aura des vraies difficultés. Je prends par exemple l'exemple des villes en transition, c'est très bien, il y a des groupes qui se créent, des villes en transition, etc. Mais il n'y a jamais la quantification qui va avec. C'est-à-dire que si ce groupe-là, finalement, aboutit à 5% de diminution de consommation d'énergie, alors qu'il en faudrait 70 ou 80, on n'est pas dans le bon rythme. On a beaucoup d'efforts qui sont consacrés pas à la bonne trajectoire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Et je crois tout à fait à ce qu'a dit Anne sur la transition partant d'un certain nombre de nicheurs, d'expériences, etc., etc. Mais il faut réfléchir à cette trajectoire globale. À partir de là, on peut imaginer, pour moi, 6 mois, 1 an de débat complet là-dessus, qui fixerait à ce moment-là une nouvelle loi d'orientation sur l'énergie et sur le climat, mais cette fois-ci avec une trajectoire. La loi actuelle, elle a simplement des objectifs, elle n'a pas la trajectoire. Et c'est ça qui manque. C'est-à-dire, et on l'a bien vu sur les 50% de nucléaire à 2025, c'est 2 chiffres sur lesquels on peut dire absolument tout et n'importe quoi. On peut y arriver à la fois en augmentant considérablement la consommation d'énergie ou au contraire en la diminuant. Il faut qu'on soit beaucoup plus précis et qu'on ait ce code. À partir de là, il s'impose au niveau national, mais on laisse ensuite les régions et les territoires gérer et avoir les priorités, la façon d'opérer qui convient évidemment au mieux à finalement cette subsidiarité territoriale, avec la possibilité derrière d'avoir évidemment des appropriations citoyennes fortes. Un des points pour moi qui est essentiel actuellement, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on puisse avoir des méthodes d'approche d'équipement qui soient gagnantes-gagnantes. Sur l'éolien, par exemple, sur lequel il y a énormément de difficultés, eh bien, il me semble qu'on peut les résoudre si on est sur une approche où le citoyen participe au champ éolien, la collectivité participe de la même façon qu'un opérateur, et que les produits et que d'une part, lorsque l'éolienne va tourner, eh bien, à ce moment-là, on a une répercussion sur le bas de la facture électrique à régler, d'une part, et d'autre part, pour faire en sorte que les revenus éoliens, et c'est là où c'est astucieux, soient répercutés sur la diminution de la consommation d'énergie. C'est là où on rentre dans un cercle, par exemple, sur les programmes d'isolation locaux, etc. etc. Et c'est ça qu'il faut mettre en place avec de l'imagination, la créativité, des expérimentations. Mais, je le répète, et pour terminer là-dessus, à la bonne échelle pour que ça fasse système. Et assez vite dans un débat démocratique qui fixerait cette règle du jeu, sinon, soit on fait une sortie de route, on n'arrive pas, c'est un petit peu ma métaphore du chemin de randonnée, on s'est mis en place, mais on a démarré, mais on n'arrivera pas au bout, ou on arrivera trop tard, ou on n'a pas assez prévu de matériel, d'équipement, etc. Et on va louper gravement cet objectif. Et donc, à ce moment-là, eh bien, les gens qui se sont mis en marche ne seront pas contents. On va trouver on aura à ce moment-là des refus, comme on peut le voir aujourd'hui, avec des crispations qui peuvent être très importantes, par exemple, sur certaines renouvelables. Voilà.
Merci beaucoup. Je vais passer la parole à M. Orfouin.
Bonjour à vous toutes et à vous tous. La question de ce changement d'échelle, de changement de rythme, finalement, c'est vraiment la question centrale de la transition écologique. Le rapport sur les 1,5 du GIEC demain le remontrera à nouveau, une nouvelle fois. Il faut cette accélération et ce changement de rythme. Avant d'échanger dans les questions, je vais partager avec vous une petite dizaine de constats. Le premier, c'est qu'il ne faut pas minimiser ce que la transition écologique énergétique implique comme changement dans la société. Je pense que là, dans la salle, on veut tous cette transition. Mais il faut qu'on ait en même temps conscience de tout ce que ça bouleverse, que si on veut la faire au bon rythme, ça veut dire des changements radicaux pour l'ensemble des acteurs, et donc c'est ça qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est effectivement, Anne Ringo l'a dit, ce changement de modèle. Vraiment, et si on le fait au bon rythme, ce sont des changements majeurs pour l'ensemble des acteurs. Et ce que je vois, moi, dans l'action politique, avant j'étais dans l'action, effectivement, soit publique à l'ADEME, soit dans les organisations non gouvernementales, excusez-moi, je cherche le mot, mais il est trop tôt pour moi, j'ai pas pris assez de café. Je me suis couché trop tard à cause d'un bravo.
Bravo.
Non, mais il faut vraiment vaincre ce conservatisme, ces immobilismes. Moi, je le dis souvent parce que le principal lobby qu'on doit affronter, c'est celui de l'immobilisme. Effectivement, c'est beaucoup plus simple de ne rien changer. Donc ça, il faut qu'on l'ait en tête parce qu'on est souvent entre nous à vouloir ce changement, mais il faut aussi qu'on essaye de bien avoir en tête quels sont les leviers à changer. Deuxième point, pour réussir cette accélération, il faut des nouvelles priorités dans toutes les politiques. Ça, c'est très important. Je vais vous donner un seul exemple, parce que Thierry Salon en a parlé, sur le stockage, etc. C'est des sujets sur lesquels il faut continuer à faire de la recherche sur le stockage de l'énergie. Quelle est l'énergie si vous regardez l'évolution des budgets affectés en France à la recherche publique sur les différentes sources d'énergie depuis 10 ans, il y a une énergie qui est tout en haut, dans laquelle, depuis 10 ans, chaque année, l'État français met en recherche publique entre 400 et 500 millions d'euros par an, c'est le nucléaire. Mais l'ensemble des énergies renouvelables, c'est 200 millions d'euros, deux fois moins. La maîtrise de l'énergie, on a baissé de 40% depuis 2012 les moyens annuels mis dans la recherche publique sur ces sujets-là. J'ose à peine vous donner le chiffre du stockage, qui est, je crois, 20 millions d'euros par an, donc un vingtième de ce qu'on met aujourd'hui, en 2017-2018, dans l'énergie nucléaire. Donc voilà, tant qu'on mettra deux fois plus d'argent dans la recherche en nucléaire que dans la recherche sur toutes les énergies renouvelables confondues, c'est normal qu'on n'arrive pas à l'accélération. Troisième point, il faut là aussi qu'on ait bien en tête, nous tous qui voulons cette transition, que les décisions, elles seront prises souvent sur des critères économiques. Et donc, il faut que notre transition, ce soit la solution la plus économique. Je le dis parce que c'est important, parce que les arbitrages sur la programmation pluriannuelle de l'énergie qui sont attendus ces prochaines semaines, le gouvernement ne fait pas mystère. Il va aussi prendre des décisions sur la base de critères économiques. Il faut que les uns et les autres, on montre qu'effectivement sur le nucléaire, les coûts qu'on veut bien présenter au gouvernement ne sont pas les coûts réels, effectivement, mais ça aussi, ça a été montré depuis tellement longtemps. Mais malgré tout, il faut, si je mets le nucléaire un peu de côté, il faut que nous, nos solutions soient aussi les moins chères. Je le dis parce que là, sur l'éolien en mer, il y avait les 6 appels d'offres qui avaient été négociés avant que le prix des technologies baisse. Heureusement qu'il y a eu la renégociation avec les porteurs de projets que l'État a réussi à faire il y a un mois et demi, qui a failli échouer d'ailleurs, mais qui a permis effectivement de faire baisser le coût du soutien public à ces 6 parcs éoliens en mer de 40 milliards d'euros à 15 milliards d'euros. Je dis ça, c'est important. Oui, mais en fait, c'est logique parce que les technologies avaient beaucoup progressé et ça coûtait aujourd'hui 5 fois moins cher, ou j'ai plus le chiffre en tête, de produire un kilowattheure d'éolien en mer qu'au moment où les appels d'offres ont été passés. Donc tant mieux, mais on est passé juste à côté de ces 6 projets qui sont abandonnés par l'État. Donc il faut qu'on ait toujours en tête de montrer l'intérêt économique de nos solutions, et tant mieux, c'est souvent les moins chers. Mais c'est pas si simple encore. Je croise un habitant de ma belle ville d'Angers la semaine dernière qui me dit « Bon, j'installe des panneaux photovoltaïques chez moi, je le fais bien parce que je suis écolo et parce que je pense que c'est bon pour la planète, parce que le temps de retour, c'était pour lui 27 ans ou je sais pas quoi. » Bon, tant que c'est ça, ça peut pas marcher nos affaires. Hein. Je suis désolé de... Il faut que les gens aient plus d'intérêt qu'aujourd'hui à investir dans ces solutions. Quatrième observation, il faut que la base de ce changement d'échelle, ce soit la sobriété. La sobriété notamment énergétique, et pas seulement. Et vous avez vu, et ça, c'est quelque chose effectivement qui n'est pas si simple. C'est un changement de modèle de consommation, c'est une consommation plus responsable, c'est un changement de modèle de production aussi, mais c'est dans tous les objets du quotidien. Vous avez vu la toute nouvelle étude de l'ADEME la semaine dernière qui montre qu'un quart des émissions de CO2 en France, c'est nos objets du quotidien. Électroménager, appareils électroniques, etc. Tout ça, c'est un quart de nos émissions de CO2 en France. Donc là, il faut vraiment qu'on arrive à travailler. Là aussi, il y a de la recherche à faire sur comment l'innovation, c'est pas que technique, comment on arrive à rendre ce nouveau modèle de consommation désirable. Et évidemment, là, on vient s'opposer ce que les uns et les autres peuvent avoir en tête, mais il ne faut pas négliger cet aspect sobriété qui doit être la base, qui sera la base de la réussite. Et je pense que l'amener avec des questions décroissance ou pas, choses comme ça, c'est pas forcément la bonne façon. La sobriété, par contre, est cette clé, d'ailleurs, qui est la base du scénario mégawatt, c'est vraiment la bonne clé d'entrée. Il faut aussi s'attaquer en priorité aux gros secteurs émetteurs. Et je pense effectivement à la rénovation énergétique. Ça a été dit par Thierry Salomon. On n'est pas du tout au niveau. Et là, il va falloir vraiment qu'on puisse collectivement peser pour que on arrive, parce que bon, c'est 500 000, 700 000 rénovations, on a le chiffre depuis le Grenelle de l'environnement, on était tous déjà là, en tout cas les trois, pour l'instant, ça n'a jamais avancé au bon rythme. Et on a même vu là on voit que dans le projet de loi de finances, on ouvre l'éco-prêt à taux zéro, on supprime une notion. réduction de bouquets de travaux, de rénovation performante, etc. Donc on va dans, clairement dans le mauvais sens. Mais il faut reconnaître aussi que ce qu'on avait essayé de mettre en place depuis le Grenelle de l'environnement ne marchait pas. Ça ne marche pas, notre dispositif. Pas assez bien. On n'a jamais été au bon rythme. Donc je crois que personne n'a de leçon à donner sur ce sujet, mais il faut vraiment qu'on puisse changer la donne. Et là, il y a un certain nombre de... J'ai beau être dans la majorité, j'ai aucun problème à dire qu'il y a des décisions dans ce projet de loi de finances 2019 qui ne vont pas du tout dans le bon sens. Et il va falloir qu'on accélère sur cette rénovation énergétique et qu'on revienne à un certain nombre d'engagements qu'on avait pris. L'autre gros secteur, ce sera ma sixième observation, c'est la mobilité, évidemment. Et là, on a des enjeux majeurs, on a pris des décisions, fin des véhicules thermiques d'ici 2040, etc. Tout ça doit se concrétiser aujourd'hui. Et à chaque fois, on a des forces opposées qui tentent faire qu'on réduise un peu la voilure sur les objectifs et aussi sur les actions derrière. Vous verrez mardi, il y a un conseil des ministres européens sur, nos objectifs de réduction des émissions de CO2 des véhicules neufs, avec là un certain nombre de constructeurs dans une alliance assez habituelle avec le gouvernement allemand qui essaye de faire que les objectifs de l'Europe soient rabaissés un petit peu sur les émissions de CO2 des véhicules neufs en 2030. Donc ça fait partie des points sur lesquels il faut être évidemment très très vigilant. Et de parler d'Europe m'amène aussi à vous dire qu'à mon avis, l'accélération, elle n'aura de sens que si elle est menée au niveau européen. Si la France ou n'importe quel autre pays de l'Europe accélère toute seule, ça ne marchera pas. Et on peut avoir un certain nombre de pays qui veulent porter l'ambition, etc. Mais la vraie question, c'est au niveau des continents et c'est au niveau, évidemment, pour nous, de l'Europe. On a trop tendance en France à occulter en permanence le volet européen. On n'a pas beaucoup de pays qui regardent aussi peu l'Europe que ce qu'on fait en France, mais vraiment, il faut que cette accélération, ce changement d'échelle, on arrive à concrétiser au niveau européen. Quelques autres éléments à partager avec vous. Le premier, c'est qu'il faut réussir le basculement des investissements, tout à fait, dans la transition énergétique. Aujourd'hui, en France, il manque 20 milliards d'euros d'investissement dans la transition écologique par an. Il faut qu'on réussisse ce basculement. Il y a des capacités d'investissement partout, en France et dans le monde, des investisseurs publics, des investisseurs privés, etc. La vraie question, c'est comment on arrive à basculer ces investissements de secteurs traditionnels, les énergies fossiles notamment, au secteur de la transition. Et c'est là aussi que des événements comme... le One Planet Summit, un certain nombre de gens se disaient, mais à quoi ça sert? Ben, ça a servi notamment à ce que des fonds de pension, des fonds souverains européens, la Banque mondiale, etc., annoncent des investissements et du basculement d'investissements des secteurs qui sont contraires à la transition vers les secteurs qu'on souhaite favoriser. C'est très bien de faire pression sur les députés, mais il faut le faire de la bonne manière. D'otage, pourquoi pas, ça peut marcher, mais c'est juste parce que moi je réponds par exemple à tous les mails que je reçois. Et quand on reçoit 300 mails en copier-coller, on répond quand même, mais c'est pas la meilleure façon. Moi, si je vous conseille d'aller voir vos députés, je trouve que c'est très bien, mais allez les voir en vrai, écrivez-leur des mails en vrai. Et effectivement, là, il y a sur certains mouvements, simplement d'aller sur une plateforme où des fois, je vais donner un exemple, ça n'a pas dans la salle, mais par exemple, contre 80 km/h, on reçoit beaucoup de pression en ce moment de ceux qui voudraient aller toujours plus vite et jamais être punis pour ça sur les routes. Bon ben voilà, ils nous envoient à chaque fois qu'un de leurs adhérents dit je veux harceler mon député, on reçoit un mail, mais je n'ai pas les mails des personnes pour leur répondre. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ce soit bien fait pour que ce soit utile et que ce n'est pas un effet contre-productif sur le député. Deux points pour conclure. Le premier, il faut piloter. C'est pour ça que l'observatoire présenté par André Coe est important. Il faut piloter en permanence les écarts entre ce qu'on fait et ce qu'il faudrait faire. Ça, c'est très important. Et il faut mettre les politiques à tous les niveaux devant ces responsabilités-là. Donc ça, c'est très important. Ça a manqué. Il faut bien sûr, il faut, pour faire les calculs, les 150 pages évoquées, mais il faut surtout le tableau de bord, extrait de ça, qui va montrer effectivement la différence de rythme. Parce que rendez-vous compte de ce que Thierry Salomon vient de nous dire. Il vient de nous dire sur les rénovations lourdes, on est à 1/15 de ce qu'il faut faire. C'est le chiffre que tu as donné. Vous vous rendez compte? Sur la rénovation énergétique, on fait 1/15 de ce qu'il faudrait faire. Donc c'est ce chiffre-là qu'il faut mettre sur la place publique et mettre l'ensemble des politiques et de l'ensemble des acteurs en face de ces responsabilités. Pour les 2 minutes qui me restent, je voudrais vous dire que moi, je n'ai pas la solution sur la vraie question qui est comment on massifie cette volonté commune d'accélérer la transition écologique. Parce que là, encore une fois, et tant mieux, heureusement qu'il y a des initiatives comme Alternativa pour fédérer tout ça. Mais on reste quand même, vous restez, pour l'instant, pas du tout majoritaire dans la société. Et donc, il faut qu'on arrive, comme d'ailleurs ceux qui veulent porter l'écologie parfaite à l'Assemblée, aujourd'hui, ne sont pas majoritaires. Donc, il y a une vraie question, comment on réussit cette pacification? Tant qu'il n'y aura pas une pression citoyenne, 1 million, 2 millions de personnes, je pense qu'on aura du mal. Et il faut qu'on arrive à réussir, c'est pas du tout pour nous désespérer que je dis ça, mais je dis parce qu'on n'a pas encore trouvé la solution. Il y a eu d'autres moments de l'histoire, il y a eu d'autres moments en France, etc., où les Français ont pu se mobiliser pour des grandes avancées. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve ce moment-là, il faut qu'on trouve cette forme de mobilisation générale sur nos questions de transition, et je suis sûr que dès qu'on aura trouvé cette mobilisation-là, on pourra réussir cette accélération.
Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer aux questions. Donc, on va prendre les questions par série de 3-4 questions. On va vous demander d'être assez concis par les questions que vous posez. Mais je vais vous poser une question. D'après ce que vous dites, les politiques ont un rôle très très important quand même. Et notamment, vous avez parlé que quand même, les citoyens peuvent faire certaines choses, et notamment peser sur les élus. Comment on peut peser sur les élus, sachant qu'au plus haut niveau de la sphère décisionnelle, notamment au bureau du Premier ministre, on a 2 anciennes personnes d'Areva qui se sont succédées, M. Cazeneuve et M. Philippe.
Bonjour. Vous dites effectivement qu'il est possible de sortir des énergies fossiles et fissiles en maintenant l'objectif de la réduction de 5 degrés, donc en allant vers la neutralité carbone en 2050. J'ai envie de vous croire, peut-être même que j'y crois. La question c'est comment et à quel prix. Alors il est clair que... on a pris énormément de retard sur les énergies renouvelables, puisque si on avait investi les 500 milliards de recherche sur le programme électronucléaire à l'époque sur les énergies renouvelables, on n'en serait certainement pas là. Malgré tout, je pense que la méthode de dégawatt est la bonne, c'est-à-dire on se fixe un objectif et on réadapte. Je pense que c'est vraiment la bonne méthode. Après, j'ai quelques questions quand même sur le contenu, à savoir, est-ce que vous atteignez la neutralité sur le plan des émissions ou de l'empreinte carbone? Est-ce que vous prenez en compte tous les effets des importations de produits manufacturés, notamment de Chine, dont on vient de nous rappeler que ça constituait 20%, je crois, de notre empreinte carbone. Deuxièmement, est-ce que vous prenez en compte, du coup, les émissions aussi des matériaux de rénovation? Parce qu'on entend, j'entendais à la radio, là, que la laine de verre est aujourd'hui subventionnée dans le cadre de ces projets de rénovation. Alors, est-ce que ça signifie que, vu que les cimenteries sont, par exemple, des points absolument énormes en émissions de gaz à effet de serre, est-ce qu'il faut préconiser d'interdire simplement le béton aujourd'hui et de construire en bois, puisque ça permettrait de séquestrer aussi? Est-ce qu'il faut aller vers là-dessus? Ensuite, deuxième point rapidement, malgré 2 chocs pétroliers et 30 ans de développement durable, on n'a quasiment pas avancé sur le découplage entre croissance du PIB et croissance des émissions de gaz à effet de serre. En gros, on a gagné 10% en 30 ans. Est-ce que vous pensez...
Une question, s'il vous plaît, parce qu'il y en a d'autres qui veulent poser une question.
Est-ce que vous pensez que c'est possible de diviser quasiment par l'infini, puisqu'on va à la neutralité carbone en 30 ans, alors qu'on a gagné 15% sur les 30 ans précédents? Ensuite, il y a la question du photovoltaïque au sol et la question de la biodiversité. Et enfin, pour monsieur Arsenal, hier, c'est évidemment...
Excusez-moi, monsieur. Vous passez le micro, on va
La question c'est, si on ne peut pas être majoritaire dans une commission, est-ce qu'on ne peut pas prendre ces mesures par ordonnance, puisqu'on peut les prendre par recul ?
Merci. D'accord.
Bonjour. Moi, je voulais poser une question par rapport à ce que vous disiez, M. Salomon, sur les référendums. Est-ce que ce serait intéressant de poser une question en référendum au niveau européen pour que l'ensemble des citoyens européens se saisissent de la question ? Est-ce que vous êtes pour ou contre la suite d'un tel scénario, par exemple, et que les gens puissent en discuter comme ça, et entre guillemets, l'obligation de d'y réfléchir ?
C'est une seule question, mais elle est avec deux volets. Le changement, c'est quand on partage des intérêts particuliers avec des intérêts collectifs. Et quand il y a une belle histoire qui est racontée, qui va avec, je produis de l'énergie photovoltaïque, je gagne des sous avec, et je me sens bien. Et il me semble que c'est le rôle des politiques de nous raconter les belles histoires. Il doit arranger les foules. Et on ne peut pas se défausser comme tu peux le faire.
Je veux bien répondre à certaines des questions.
Bon, faut qu'on. J'ai pas l'impression de souvent me défausser, mais si. Mais j'ai l'impression, notamment depuis 16 mois que je suis dans la majorité, plutôt à chaque fois d'avoir pris mes responsabilités. Mais j'assume ce que je viens de vous dire. Tant qu'il n'y aura pas une mobilisation citoyenne, non, mais il faut. Moi, je veux bien qu'on rêve hein, tous ensemble, mais je dis que ça ira, on la réussira au moment où on sera beaucoup plus nombreux. Donc, je ne me défausse pas en disant ça. Je partageais avec vous un sentiment un dimanche matin. J'essaye de faire ma part du job en tant que politique. Il y a des choses qui avancent. Chacun peut se faire une idée là-dessus, mais c'est pas se défausser que de dire qu'il faut plus de mobilisation sur ce sujet. Moi, je peux vous dire que c'est jamais le premier sujet, jamais le premier sujet que les gens hors des militants m'évoquent quand je suis sur le terrain, et c'est-à-dire assez souvent. Je pense qu'il faut qu'on l'ait en tête. Même si ça nous trouble dans notre volonté, parce que nous, on est tous persuadés dans cette salle qu'il faut attirer cette transition. Il faut aussi qu'on ait en tête que ça n'est pas le premier sujet dont parlent les Français. Jamais. Moi, je trouve ça bête comme vous, mais c'est la réalité. Sur le nucléaire, etc., qui est un vrai sujet. Alors, on parle souvent un peu trop du nucléaire, on essaie de ne pas trop en parler, mais là, puisqu'il y a une question là-dessus. Effectivement, je le disais hier, le lobby du nucléaire, c'est un lobby qui n'est pas organisé comme tous les autres lobbies. Je le vois par rapport à des lobbies pétroliers, le glyphosate, etc. C'est beaucoup plus clair, il y a des acteurs qui... Là, le lobby du nucléaire, il est intégré aussi dans la sphère de décision publique, l'exemple que vous donnez sur... Mais c'est pas... Ils n'ont pas besoin du Premier ministre ni de celui d'avant avancer leurs arguments, les pro-nucléaires. Ils le font, ils ont la mécanique parfaitement organisée, etc. Et donc finalement, moi j'ai échangé encore récemment avec le Premier ministre, c'est pas lui le lobbyiste du nucléaire. Même, et là aussi je prends pas sa défense. Hein. Lui par contre il me dit sur la PPE, moi je vais prendre des décisions sur les aspects économiques. Mais le lobby du nucléaire c'est un des plus forts ensemble parce qu'on a construit l'image, on parlait de belles histoires tout à l'heure, l'histoire énergétique de la France, la réponse au choc pétrolier, c'est cette excellence française sur le nucléaire. Et effectivement, les chiffres que je vous donnais sur la recherche tout à l'heure, sur les investissements, c'est encore pire. Hein. C'est chaque année entre 1 et 2 milliards d'euros investis dans le nucléaire sur les 20 années qui ont suivi le premier choc pétrolier. Et à cause de tout ce qu'il faut faire aujourd'hui sur les centrales, on va à nouveau se lancer dans un puissant fonds d'investissement dans le nucléaire. Donc voilà. Mais c'est bien ça contre quoi il faut combattre. Et on va voir la programmation pluriannuelle de l'énergie, je vais finir là-dessus. On va voir fin octobre si c'est le scénario EDF qui a gagné ou si c'est un scénario compatible avec la transition. Ce ne sera pas celui que les uns et les autres espèrent à 100%, mais un scénario compatible avec ce chemin qu'il nous faut atteindre sur la transition écologique. L'heure de vérité sur l'énergie, elle arrive dans moins d'un mois.
Par rapport au Premier ministre ou au Président, c'est vrai que nous, on a construit cet observatoire climat-énergie dans l'idée, en fait, de rendre visibles les écarts entre les discours et ce qui se passe. on a un président de la République qui va recevoir le prix de champion du monde de la Terre, etc. Et en fait, en France, on est en train, l'année dernière, on a dépassé de 6,7% de notre budget carbone, donc le plafond d'émissions qu'on s'était nous-mêmes fixé. Donc Emmanuel Macron dit à l'ONU il ne faut plus d'accords bilatéraux de commerce avec un pays qui ne respecte pas l'accord de Paris, ben alors la France ne doit plus en faire puisqu'elle ne respecte pas l'accord de Paris. Elle n'est pas sur la trajectoire qu'elle avait mis au pot dans l'accord de Paris. Simplement, ces chiffres ne sont pas connus. Donc il n'y a pas de pression populaire, effectivement. Donc il y a les lobbies qui sont très forts, qui sont partout. Et il n'y a jamais un journaliste qui interroge le Premier ministre ou le Président pour lui dire « Mais en fait, 6,7% de dépassement du budget carbone, hein, vous faites quelque chose. » On pose des questions sur le taux de chômage, sur le déficit budgétaire, mais voilà, les renouvelables, on ne va pas atteindre l'objectif européen en 2020. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Donc il faut vraiment que ces outils un petit peu soient développés et popularisés pour que les politiques soient redevables des objectifs qu'ils ont pris. Ça vaut au niveau national comme ça vaut au niveau régional où il va y avoir des objectifs dans les schémas régionaux mi-2019 et puis on a des objectifs aussi au niveau plus local dans les plans climat et énergie territoriale. Il faut vraiment qu'on puisse dire aux politiques, vous êtes redevables des objectifs que vous avez pris et on ne va pas vous laisser déraper sur ces objectifs. Sur l'empreinte carbone, il est clair que si on ne regarde que les émissions nationales, les émissions territoriales donc produites en France, on n'a pas les émissions finalement qui sont liées à notre consommation, puisqu'il y a beaucoup de produits importés, aussi de produits exportés. Donc c'est important de regarder l'empreinte carbone. On sait qu'elle commence à baisser un peu, mais pas du tout au rythme qu'il faudrait. Alors c'est un indicateur qui est aussi suivi. Malheureusement pas de manière aussi facile et pas aussi visible que les empreintes territoriales. Donc c'est effectivement un sujet, alors pour le coup, qui fait consensus. Là, avec patronat, syndicats, ONG, enfin, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut évidemment suivre cette question de l'empreinte carbone, puisque personne ne souhaite qu'il y ait davantage de délocalisation. Et l'idée est bien de regarder globalement notre consommation. Donc c'est effectivement un sujet à creuser. Sur la partie référendum, oui, dès qu'on fait un débat public, comme là il y a eu un débat public sur la programmation de la nouvelle énergie, la réponse des citoyens, elle va dans le sens de la transition énergétique, toujours. Simplement, cette volonté-là citoyenne, on ne la voit pas. Et donc, je ne sais pas s'il faut un référendum ou un outil de ce type-là, que ce soit au niveau national ou européen, pour dire, voilà, c'est vraiment ça qu'on veut, et mettez-le en place.
Quelques réponses donc aux questions qui ont été faites. Alors, sur les questions qui sont proprement sur le scénario, je vous renvoie donc à l'intervention qu'on fera tout à l'heure avec Christian Couturier qui sera, elle, centrée vraiment sur les aspects plutôt énergétiques, techniques, etc. Pour répondre sur la partie de l'empreinte, vous avez parfaitement raison. Il y a deux types d'émissions de CO2. Vous avez les émissions de gaz à effet de serre, pardon, qu'on appelle territoriales, celles qui sont émises depuis le territoire, et puis l'empreinte écologique qui va tenir compte des biens d'équipement qu'on réalise et qui sont réalisés dans les pays étrangers, mais aussi en diminution des émissions de CO2 qu'on réalise, nous, sur des biens qui sont ensuite exportés. On a fait les deux calculs. On a publié simplement que les émissions territoriales. Le deuxième est assez compliqué, mais je vous mets quand même un petit peu en garde. Attention, la relocalisation peut aussi régénérer sur le territoire des émissions de CO2 importantes, notamment dans les transports, etc. Donc c'est pas si simple, hein. C'est assez compliqué. Sur la sobriété qui a été évoquée tout à l'heure, j'en profite pour vous indiquer qu'on va sortir à Négawatt dans deux jours, mardi, une brochure complète de 12 pages sur la sobriété énergétique, qui explique qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut faire derrière, etc., etc. Et donc, elle sera téléchargeable sur notre site. Ça, c'est pour cette semaine. Concernant maintenant la question du référendum, j'ai pas parlé de référendum, j'ai parlé de débat, qui me semble plus important. Le référendum peut éventuellement sanctionner le débat. Un point qui me paraît important, c'est que on puisse travailler sur plusieurs alternatives. Moi, j'ai participé au débat national sur la transition énergétique avec vous deux. J'ai été extrêmement surpris en arrivant dans le comité des experts et puis sur les différentes réunions. Je suis arrivé avec mon scénario négawatt sous la main. Je pensais qu'on allait avoir en face d'autres scénarios aussi précis et que à ce moment-là, la dit absolument pas. J'ai passé avec d'autres 5 mois de ce débat sur la transition énergétique à défendre notre scénario sans qu'il y en ait en face. Et ça c'est inacceptable. C'est-à-dire qu'il faut demander au gouvernement leur scénario précis, année par année, quelles vont être les fermetures de réacteurs, etc. Sinon, on ne débat pas. Ou alors, on en reste simplement sur l'horizon 2050, qui est évidemment beaucoup plus loin que les temporalités des mandats des uns et des autres. Certains seront décédés à cette époque-là. On est dans une espèce de fantasme, si vous voulez, du titre 1 de la loi. Il faut une trajectoire, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et puis le dernier point concerne celui qui a été indiqué sur le découplage entre le PIB et l'effet de serre. Là, je voudrais faire une toute petite précision là-dessus. Le scénario négawatt n'est pas un scénario sur lequel le PIB baisse. Et on n'est pas en décroissance du scénario. Par contre, on est en vrai découplage. Alors pourquoi ? Parce que lorsqu'on a toujours une discussion là-dessus, sur ce fameux découplage entre le PIB et l'effet de serre, on globalise complètement les choses. Or, dans le PIB, vous avez des choses très utiles, extrêmement intéressantes, celles des services, par exemple. Des services qui sont utiles. En ce qui concerne, je sais pas, les hôpitaux, etc. Tout ça est rentré. On a même des services domestiques qui sont intégrés. Donc il faut vraiment regarder ce qu'il y a dans le PIB. Et il faut faire la part des choses entre le bon PIB, en quelque sorte, et le mauvais PIB. C'est un peu comme le cholestérol. Vous savez, c'est le bon et le mauvais. Et moi, j'aimerais bien qu'on ne globalise pas, parce que c'est une question récurrente, le PIB et l'effet de serre. Non, il faut regarder. Et quand vous regardez la partie de PIB, je dirais, concernant la transition dans le scénario négawatt, eh bien, on a effectivement ce découplage qui s'opère et à la vitesse qu'on a indiqué tout à l'heure, puisqu'on arrive effectivement à une neutralité. Pourquoi il y a du PIB qui augmente ? Il y a des éoliennes, il y a de la rénovation, il y a des métiers, il y a de l'industrie. C'est un scénario qui est aussi avec une composante industrielle. Quand vous avez par exemple dans ce scénario un développement très important de l'éolien offshore flottant, eh bien derrière c'est peut-être une partie de reconversion d'Airbus, c'est de l'électromécanique, c'est de l'industrie, mais c'est aussi des emplois, c'est la reconversion, par exemple, de Port-la-Nouvelle vers Narbonne en bassin naval de maintenance sur un grand nombre d'éoliennes flottantes, etc., etc. Et c'est quand même plus intéressant et plus astucieux que d'avoir des chantiers navals qui nous fabriquent des grands paquebots de luxe. Et donc ça, c'est aussi, il y a une composante industrielle forte dans ce scénario, de la même façon qu'il y a aussi une composante artisanale et qu'il y a aussi des métiers sur les territoires. La rénovation énergétique des logements, c'est 40 ans de boulot territorialisé. C'est ça qui est intéressant et très peu exportable. Et puis il y a de la recherche et développement, etc., etc. Donc c'est un vrai scénario, si vous voulez, sociétal, et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, qui est maintenant couplé entre la partie énergie, agriculture, territoire et alimentation. Il nous reste à travailler un peu sur l'eau, les déchets, mais à chaque fois on a aussi sur cette volonté de dire d'être sur ces trois axes, sobriété, efficacité et renouvelable. C'est vrai aussi sur les déchets, c'est vrai aussi sur l'eau. Il y a un vrai projet sociétal qui est finalement derrière.
On va prendre d'autres questions.
Mathieu Flo a dit tout à l'heure que en fait, le secteur du nucléaire a été capable de raconter une belle histoire pour pouvoir s'imposer et pour pouvoir perdurer. Aujourd'hui, la PPE, en fait, c'est un sous-produit du modèle financier et économique d'EDF. Et les ONG, comme celle d'Anne Drago en particulier, ont montré que ce modèle actuel d'EDF était plus soutenable, quoi, était voué à sa fin. Le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à démontrer à EDF l'intérêt du modèle économique alternatif. Je pense qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle l'EDF a du mal, en même temps que la superstructure d'État, à aller vers ce modèle alternatif, c'est que EDF aujourd'hui fait 85% de la production d'électricité en France, et dans 25, 30 ans ou 35 ans, ils n'en font plus 40. Et ça, psychologiquement, c'est absolument pas acceptable dans des têtes qui sont câblées comme celles de nos gouvernants, qui sont dans la croissance, etc. Donc, perdre la moitié des parts de marché sur la production d'électricité, c'est ça le problème fondamental. Alors que le scénario PPE qu'ils vont nous sortir, effectivement, le scénario volt ou ampère, s'il y a aussi des scénarios d'EDF qui sont pas mal, c'est celui de Watt. Et si on le renforçait avec un peu plus d'énergie renouvelable, on pourrait arriver à arrêter toutes les centrales à 40 ans sans augmentation des émissions de gaz à effet de serre du secteur électrique. Alors moi, je voulais vous poser la question, est-ce que c'est pas là, est-ce que c'est pas ça qu'il faut qu'on montre? Effectivement, tu vas avoir une perte de ta part de marché, mais à 40%, 45%, si tu arrives avec ces 45% à faire des marges sur ta production, eh bien c'est bien mieux que de rester à 80 ou 85%, mais en faisant plus de marge. Parce qu'un scénario comme celui de Volt, on triple les exportations d'électricité à travers l'Europe, et on fait à ce moment-là baisser fortement le prix de l'électricité sur le marché, et donc il n'y a plus de marge pour EDF et pour les autres producteurs d'électricité, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se développer, et en particulier se développer pour investir dans la transition énergétique.
On parle beaucoup en ce moment d'Alternativa et ailleurs que l'échelle où il faut agir maintenant, c'est celle du territoire, surtout avec l'arrivée des plans climat cette année. Et moi, ce que je vois à l'échelle de mon territoire, c'est qu'il y a des choses qui avancent au niveau de la baisse de la consommation, au niveau de l'achat d'énergie verte. Et par contre, là où c'est l'immobilité, c'est la production d'énergie renouvelable. Alors ma question, c'est est-ce que le territoire, pour le coup, c'est la bonne échelle pour pousser sur vraiment la création et la production d'énergie renouvelable? Sinon, quelle est l'échelle à trouver et quels sont les leviers d'action au niveau citoyen? Et si oui, comment faire pour démarrer ça dans mon territoire?
Moi, j'ai deux points que j'aimerais mettre en évidence. Vous parlez d'un changement au niveau européen, monsieur Orphelin, que ce changement ne viendra pas sans les autres pays européens, en sachant qu'il y a 28 pays européens actuellement, si la mémoire est bonne. Des pays comme la Hongrie, la Roumanie, la Pologne, etc. Faucon travaille avec Bruxelles. Il faut qu'on mette Bruxelles dans la boucle, en sachant que Bruxelles, c'est les États qui prennent une décision. Donc ce jugement européen, moi je ne crois pas forcément à 28, c'est juste possible. Donc je reviens avec l'intervention de la personne juste avant moi. Changement peut se faire au niveau territorial. Et pour ça, il faut une mobilisation citoyenne. Donc, le deuxième point que je souhaiterais aborder avec vous, cette mobilisation citoyenne, elle existe sur plusieurs plans. Quand on parle de changement climatique, de transition énergétique, etc., on sait très bien que ça regroupe énormément de domaines, notamment le domaine social, le domaine environnemental, le domaine industriel. Dans le domaine social, par exemple, la mobilisation citoyenne existe, puisqu'il y a quelques années, vous devez vous en souvenir, il y a eu cette fameuse loi travail qui a été notamment votée par ordonnance, là ils l'ont fait. Et du coup, l'organisation citoyenne était là, mais le pouvoir politique en haut n'a pas écouté cette mobilisation citoyenne. Donc vous dites qu'au niveau territorial, au niveau national, il faut une mobilisation citoyenne. Mais cette mobilisation citoyenne n'est pas écoutée actuellement. Que ce soit au niveau européen, au niveau national, moi personnellement, je ne vois pas trop comment la gouvernance actuelle peut nous amener vers cette transition écologique.
On va faire une dernière question.
Oui, j'avais bien aimé l'image de M. Salomon sur le code de la route. Est-ce qu'il y a des exemples, même à l'échelle locale, de débauche de ces codes et de ces pistes de travail?
Je vais commencer en essayant d'être rapide, mais il y a beaucoup de questions intéressantes, donc c'est compliqué de faire rapide. Sur l'évolution d'EDF, effectivement, c'est assez contradictoire, parce qu'à la fois, EDF va dans le mur. De multiples rapports démontrent que EDF n'est pas en capacité à la fois d'investir pour prolonger ses réacteurs et de continuer dans ses volontés de
va le coup des montagnements, les déchets, etc. Donc c'est un mur. Et par ailleurs, ne pas fermer de réacteurs nucléaires, ce qui est sa volonté, va faire qu'on a trop de production d'électricité. Et du coup, le prix de marché de l'électricité va être très bas. Et du coup, la rentabilité de tous les producteurs d'électricité, et donc majoritairement EDF en France, va être remise en question, puisqu'il ne va pas gagner assez d'argent avec un prix de vente qui sera trop bas. Donc il est complètement dans un déni de réalité, et ce qui est complètement incompréhensible avec par ailleurs l'État actionnaire qui devrait, qui probablement s'autobloque en se disant voilà, c'est un sorte de monstre auquel on ne doit pas toucher. Alors, il y a un rapport du WWF qui est sorti il y a une ou deux semaines, qui donne, qui fait des propositions pour l'avenir de l'EDF, et je vous invite à les consulter, pour qu'il y ait un avenir économique viable pour l'EDF, dans une vision où on ferme effectivement des réacteurs nucléaires, entre autres. Sur la production d'énergie renouvelable localement, alors il y a beaucoup d'initiatives qui existent, soit au niveau rural, soit au niveau plus urbain. Donc, dans les territoires plutôt ruraux, vous avez des territoires énergie positive. Vous pouvez chercher sur un moteur de recherche sur Internet. Il y a des collectivités plutôt rurales qui se rassemblent, et par ailleurs qui sont animées par une des associations pour laquelle je travaille, Claire, Réseau pour la transition énergétique. Et ces collectivités s'engagent à aller vers le 100% énergie renouvelable, voire plus, et partagent. Donc chaque année, il y a une rencontre de ces territoires énergie positive qui partagent des bonnes pratiques, ce qu'ils font, etc. Donc c'est un moyen, si vous avez un élu, de lui dire « Regardez, ça marche, il y a des exemples, là ils font ceci, là ils font cela. » Pour les villes, on a travaillé un petit peu différemment, puisque pendant la COP21, il y a une grande rencontre à Paris, à l'hôtel de ville, où 700 maires du monde entier sont engagés à être 100% énergie renouvelable en 2050. C'est chouette. On est allé voir ensuite plusieurs villes en France, une quinzaine, pour voir où vous en êtes. Pas beaucoup avancé. Et donc on a fait une petite publication qui s'appelle « Vers des villes 100% énergie renouvelable », je vous invite aussi à consulter soit sur le site du Réseau Action Climat, soit du CLER, qui donne des pistes pour les élus pour aller vers ce 100% énergie renouvelable et donc à la fois baisser la consommation d'énergie, mais développer les énergies renouvelables. Et là, on retrouve le lien avec les territoires ruraux parce qu'une ville, pour être 100% énergie renouvelable, eh bien, on ne va pas pouvoir mettre des éoliennes en centre-ville. Donc, il va falloir qu'elle réduise fortement sa consommation d'énergie et qu'elle consomme de l'énergie renouvelable qui vient des territoires ruraux alentours. Il pose la question de est-ce que les territoires ruraux sont d'accord pour produire davantage d'électricité renouvelable pour alimenter les villes et quelle coopération gagnant-gagnant on crée entre ces territoires ruraux qui peuvent trouver de la création de valeur, de la création de revenus et des villes qui ont besoin effectivement de ces énergies renouvelables. Et dans cette petite publication qu'on a faite, il y a des pistes très concrètes d'action que les villes peuvent mettre en place. Vous pouvez du coup aller voir si vous avez pour dire voilà, est-ce que vous connaissez cette publication, qu'est-ce que vous pensez des pistes qui sont proposées. Souvent les villes, les territoires ruraux, ils ont un intérêt économique puisque ça va créer des emplois territoriaux et ça va générer des revenus. Les collectivités peuvent elles-mêmes investir de leur revenu dans des projets de production d'énergie renouvelable et ça c'est positif. Sur le niveau européen versus local, en fait, c'est quand même assez complémentaire. Je suis d'accord qu'au niveau UE, tout n'est pas bien, mais au niveau français non plus, et au niveau local, parfois, ça n'est pas bien non plus. Il faut savoir que l'objectif de 23% d'énergie renouvelable qu'on a actuellement en France, il dépend de l'Union européenne, et que la France, c'est pour ça qu'en ce moment, elle essaie un peu d'accélérer, c'est que si elle n'atteint pas son objectif, l'Europe va l'attaquer. Et du coup, finalement, ça devient un moyen de pression sur la France pour essayer d'accélérer. Et là, de la même manière, l'Europe vient de se fixer des objectifs 2030 sur les renouvelables, sur le climat, etc. La France va devoir présenter son plan pour respecter ses objectifs. Et ensuite, elle va être redevable de ce plan. Donc l'Europe peut avoir aussi un rôle quand même positif pour pousser les États à avancer.
J'aurais une réponse à apporter concernant la production. Donc comme je disais, dans nous, ILR, on est une société de production d'énergie. Donc à l'échelle locale, on peut faire des choses. Mais effectivement, il faut que les politiques jouent le jeu. On l'a vu par exemple en Nouvelle-Aquitaine, quand la région a lancé la prime à l'investissement citoyen, qui était une prime en complément, on va dire, de l'investissement des citoyens. et bien du coup ça permettait, ça nous a permis déjà de convaincre les gens, parce que comme Madame Brembo disait, la première des choses c'est de légitimiser les initiatives, et le fait que de dire que si vous souscrivez chez nous, la région souscrit également, déjà ben, du coup ça veut dire qu'on est assez sérieux, et donc du coup ça légitime l'initiative. À côté de ça, les collectivités peuvent jouer un jeu, parce que nous par exemple c'est elles qui nous mettent à disposition les toitures. Donc en Auvergne, je vous conseille d'aller voir Combraille Durable, qui est, qui est une coopérative. Et par contre, il y a aussi quand même les politiques nationales, parce que par exemple, avec la loi ESS, elles ont changé le code des collectivités pour que les petites communes puissent rentrer également dans des sociétés citoyennes. C'est qu'elles avaient interdiction jusqu'à présent, il n'y avait que l'État ou les régions qui avaient cette compétence. Et enfin, une dernière chose, moi je pense qui est essentielle pour pouvoir faciliter l'investissement des citoyens, c'est le fait qu'on puisse avoir une réduction d'impôt, une réduction d'impôt qui existe pour des sociétés classiques de moins de 5 ans, mais qui a été enlevée pour les sociétés citoyennes, notamment parce que l'État estimait qu'avec l'obligation d'achat, il y avait déjà une aide. Mais bon, si on veut que les citoyens investissent, et une réduction d'impôt, ça permet de faciliter la souscription.
Sur la question du est-ce que c'est le territoire, le bon niveau, etc., je crois qu'il ne faut pas raisonner comme ça. C'est, vis-à-vis de la gravité des problèmes, tous les niveaux doivent être activés. Le niveau personnel, de notre propre responsabilité et familial, le niveau local et territorial, bien entendu, le niveau national et supranational, et également aussi, accord de Paris, etc., le niveau planétaire. C'est sur tous ces niveaux-là. Pourquoi sur tous ces niveaux-là ? De tout simplement, le problème climatique, il est bien à tous ces niveaux-là, en termes de d'émissions et de répercussions. Donc il faut agir de cette façon-là. Par contre, il me semble que le bon niveau en ce qui concerne les objectifs et puis les éléments de trajectoire, etc., est plutôt un niveau régional. Parce que ça permet à ce moment-là de bien regarder les problèmes de solidarité interterritoriale. Si on est en quelque sorte avec simplement un peu d'autarcie ou d'équilibre énergétique au niveau territorial, la somme de ces petites actions ne fera pas un tout. Il y a besoin de solidarité. Il y a besoin que, par exemple, les territoires ruraux produisent de l'énergie pour les villes, mais qu'elles soient rétribuées en conséquence, bien entendu, en espace offert, etc., etc. Ça, c'est à regarder. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision qui soit un peu plus peut-être macro. Sinon, sur ce que j'ai indiqué tout à l'heure en termes de code de la route énergétique, je reviendrai sur quelque chose qu'a dit tout à l'heure Mathieu Orphelin. Il a dit, j'ai vu le Premier ministre m'a dit, je vais prendre des décisions sur les aspects économiques. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, c'est exactement ce qu'un débat citoyen sur l'énergie permettrait qu'il ne fasse pas. Parce que du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les têtes, on met à ce moment-là une priorité absolue à l'économique. Il ne faut pas mettre la priorité absolue à l'économique, il faut la mettre sur la société, il faut la mettre sur le bien-vivre, il faut la mettre sur l'écologie, sur le citoyen. Si on a dans la tête que c'est l'économique qui est prioritaire, on va au casse-pipe. Et c'est complètement d'ailleurs incohérent avec ce qu'on vient de dire sur EDF. Parce que s'il y avait une décision économique forte à prendre sur EDF, c'est pas le perpétuer. On écouterait à ce moment-là de façon un petit peu plus forte le directeur financier d'EDF qui a démissionné avec fracas, vous savez, il y a quelques années, par rapport à Glen Point. Donc là, il y a quelque chose de fort qui est à engager au niveau des citoyens sur cette question. Du scénario et du débat. Il faut, comme l'indiquait très justement Anne, dès qu'on a monté un débat citoyen, cet effet sur le débat sur la transition énergétique depuis très récemment, tout de suite, les gens réfléchissent en disant, eh bien, ok, on est d'accord sur la transition, on est même d'accord pour faire ces efforts-là. Et là, on a à ce moment-là des éléments démocratiques. Parce que derrière ce code de la route, il y aura, comme j'ai indiqué, des interdictions, des obligations, des choses qui ne sont peut-être pas très très marrantes et qu'il faudra intégrer, mais pour le bien commun et pour l'ensemble des objectifs, parce que, et je termine là-dessus, on ne peut pas se permettre d'être dans les situations actuelles. La situation actuelle, par exemple, sur les logements, si vous avez des logements qui sont à 250 kWh par mètre carré pour se chauffer, et on sait faire maintenant des logements à 25, rapport de 1 à 10. Est-ce qu'on admettrait qu'en ville circulent des voitures qui font 5 litres et 50 litres pour le même usage? Non. Eh bien, c'est ce qui se passe actuellement, par exemple, sur beaucoup de choses en matière de rénovation énergétique. Il faut revenir là-dessus et il faut qu'il y ait un mouvement citoyen, pour ma part, qui se réapproprie le débat, quitte à ce qu'il y ait plusieurs options. Mais à ce moment-là, que les pro-nucléaires nous mettent leur option sur la table et on regardera ce qui se passe sur le plan économique.
Je suis 100% en phase avec ce que vient de dire Thierry Salomon, mais je rappelle que les décisions de la PPE, c'est dans un mois. Hein, donc il faut que chacun puisse d'ici là peser à sa façon les politiques avec leurs responsabilités, les citoyens un peu, pour faire qu'effectivement le choix ne soit pas celui du scénario d'EDF, qui d'ailleurs, bref, au dépôt de bilan un jour, je pense, mais ça c'est une histoire aussi qui s'écrira peut-être comme ça. Sur les niveaux, rien d'autre à ajouter. Moi, je crois qu'il faut faire plus à tous les niveaux, c'est très important. Et surtout pas abandonner le niveau européen. Surtout pas, parce que notamment parce que l'Europe a des compétences qui ont été transférées, notamment sur les accords de commerce. C'est l'Europe qui négocie, c'est pas la France, comme sur le climat d'ailleurs. Et il faut qu'on puisse faire entendre les positions les plus volontariste sur les affaires de climat, parce que sinon, effectivement, on va continuer à prendre des décisions au niveau français et européen qui seront contraires aux objectifs climatiques qu'on s'est fixés. Mais comme je crois que c'est la fin, je ne vais pas plus développer.
Donc je vous remercie à tout le monde d'avoir participé, et notamment aux intervenants. Je pense qu'on peut les applaudir chaleureusement. Thank you.